Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, il y a dans l'évangile d'aujourd'hui une petite phrase sur laquelle beaucoup de bêtises ont été écrites. Notre Seigneur Jésus-Christ, que les pharisiens cherchent à tromper, prend un denier et rappelle que ce denier est le prix de l'impôt. Et l'évangile conclut en disant « Je veux rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. » On associe souvent à cette phrase une autre phrase de notre Seigneur « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et on utilise ces deux phrases pour faire croire aux catholiques que le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas donc un royaume ici-bas, mais simplement un royaume au ciel. Et que donc notre Seigneur Jésus-Christ, à ce titre, n'aurait rien à dire ici-bas en matière de politique. Ce n'est pas du tout l'enseignement de l'Église catholique, mes chers frères. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, par exemple, « Mon royaume n'est pas de ce monde », cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'autorité que j'ai ici ne vient pas d'ici-bas. Il est évident que le royaume d'ici-bas, dont notre Seigneur Jésus-Christ parle, est un royaume qui prépare un royaume futur, le royaume du ciel. Il ne faut pas oublier, pour remettre les choses en place dans ce domaine, certaines phrases de l'Évangile qui sont très fortes, à commencer par notre Père. Que disons-nous tous les jours à notre Père? Notre Père qui es aux cieux, que votre volonté soit faite, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite au ciel et sur la terre. Que votre règne arrive au ciel et sur la terre, que votre volonté soit faite au ciel et sur la terre. Donc la volonté du bon Dieu n'est pas simplement d'avoir un royaume au ciel. La volonté de bon Dieu est aussi d'avoir un royaume ici-bas pour qu'il puisse justement préparer avec nous le royaume du ciel. Voilà ce qu'il nous faut comprendre. Sinon, on oublie totalement cette dimension qui est absolument fondamentale, à savoir que notre Seigneur Jésus-Christ nous met sur la terre ici-bas pour préparer le royaume du ciel. On trouve également la même doctrine dans l'enseignement du magistère de l'Église. On trouve dans deux documents absolument essentiels. Le premier, c'est l'enseignement du pape Pie IX dans Quanta Cura en 1864. En 1864, dans le syllabus, qui est l'annexe du document du pape Pie IX, qui est un document absolument infaillible, l'Église catholique condamne de façon solennelle ceux qui veulent séparer l'Église et l'État. Donc la phrase condamnée est la suivante, l'État doit être séparé de l'Église et l'Église de l'État. Cet enseignement est condamné. Donc pour bien nous expliquer, nous rappeler que l'Église et l'État doivent être unis. Le deuxième texte, c'est le texte du pape Pie XI, en 1925, Quas Primas. Donc Quas Primas, c'est la grande encyclique du Christ Roi qui institue la fête du Christ Roi pour le dernier dimanche d'octobre, donc dans 15 jours. Eh bien, le pape rappelle justement que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas roi simplement au ciel, qu'il est roi ici-bas. Et tout cet enseignement tourne autour, en fin de compte, d'une chose toute simple, notre Seigneur Jésus-Christ est tout simplement roi de sa création. Puisque c'est lui qui a créé ce monde, il est donc maître de ce monde. Nous devons vivre ici dans ce monde en utilisant toutes les choses que le bon Dieu a mises à notre disposition dans ce monde, autant que ces choses nous aident à aller vers le bon Dieu, mais il faut bien sûr nous couper de ces choses si ces choses deviennent pour nous un obstacle pour aller vers le bon Dieu. Eh bien, chers frères, ce qu'il nous faut comprendre, il y a la plupart des docteurs, des pères de l'Église qui en ont parlé, ils sont très nombreux, comparent toujours l'union de l'Église et de l'État avec l'union qui doit exister entre un corps et une âme. Le corps et l'âme sont unis. Le corps et l'âme sont unis, bien que le corps soit une chose et l'âme une autre. Mais ce qui donne la vie au corps, c'est l'âme. Parce qu'il y a une séparation entre corps et l'âme. S'il y a une séparation entre corps et l'âme, évidemment, le corps meurt. Les gens qui ont un corps et une âme séparés sont les gens qu'on trouve dans les cimetières. Donc de même qu'il y a une union entre le corps et l'âme, il doit y avoir une union entre l'Église et l'État. L'union entre l'Église et l'État ne signifie pas que l'Église doit écraser l'État. Il y a un domaine propre de l'État et un domaine propre de l'Église. C'est la raison pour laquelle l'Église enseigne que ces deux sociétés, l'Église et l'État, sont toutes les deux des sociétés parfaites. Qu'est-ce que ça veut dire une société parfaite? Il y a une société qui est capable d'atteindre sa fin sans l'aide d'une autre société. La société familiale, par exemple, la famille n'est pas une société parfaite. Parce que la famille a besoin de l'aide de l'État et de l'aide de l'Église. Par contre, dans son domaine, l'Église est une société parfaite, et dans le domaine de l'État, l'État est aussi une société parfaite. Mais il doit y avoir une union entre les deux. Il y a une union entre les deux parce que justement, de même que l'âme donne la vie au corps, de la même façon, l'Église catholique, par l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ, doit vivifier l'État catholique. N'oubliez pas qu'une des premières choses qu'ont fait les révolutionnaires en 1789 était justement de préparer la séparation entre l'Église et l'État, qui est arrivée malheureusement en France au début du XXe siècle. Avec le ministère Combes. Pourquoi cette séparation entre l'Église et l'État? Pour faire croire aux gens, justement, que l'Église n'a plus rien à dire en matière d'État. Or, l'Église doit dire quelque chose dans ce domaine. Et là, encore une fois, il faut que les choses soient parfaitement claires, parce qu'on entend beaucoup trop de bêtises sur ce domaine-là. Il est évident que l'Église ne doit pas tout le temps être, je dirais, sur le dos de l'État pour rappeler à l'État ce qu'il doit faire en tout. Il y a un domaine propre à l'État. Un exemple tout simple. Supposez que le maire de Langon veuille construire un nouveau pont sur la Garonne, l'Église n'a absolument aucun conseil à donner dans ce domaine. Et si le maire de Langon venait voir le prêtre en disant « Voilà, on veut construire le pont, c'est pas s'il faut construire à droite ou à gauche de la ville, en l'est ou à l'ouest de la Garonne », eh bien, l'Église, strictement parlant, n'a rien à dire sur ce sujet parce que ce n'est pas son domaine. De la même façon, il y a un domaine propre à l'Église dans lequel l'État n'a jamais à mettre son nez. Par exemple, la liturgie, les lois liturgiques, les sacrements, etc. Mais il y a un lien entre les deux. Et ce lien entre les deux, était absolument fondamental. Si on coupe l'Église et l'État, tout simplement, les membres de l'État, c'est-à-dire les citoyens de cet État, sont tout simplement incapables d'aller au ciel. Parce que même dans un État républicain comme en France, eh bien, l'Église catholique doit influencer tous les membres de l'État pour que justement les citoyens puissent monter au ciel plus facilement. Alors, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? On entend beaucoup de gens qui me disent, mais monsieur l'abbé, vous ne pouvez pas dire cela parce que si on accepte cette doctrine archaïque, comme ils disent, eh bien, cela veut dire que l'Église a quelque chose à dire en matière de politique. Alors, il faut séparer la politique et l'Église. Il n'y a pas de séparation entre la politique et l'Église. Parce que s'il y a un domaine dans lequel l'Église catholique a quelque chose à dire, c'est bien dans le domaine politique. Il y a cette fausse idée qui circule partout, même parfois dans le milieu de la tradition, que l'Église n'a rien à voir en matière de politique. Et on oublie complètement que si dans un domaine l'Église doit avoir une influence, c'est précisément dans ce domaine-là. Prenons des exemples tout simples. Pour savoir, par exemple, si... dans un pays déterminé, la France par exemple, on accepte le divorce, on refuse le divorce. Est-ce que c'est la politique ça? Bien sûr que c'est la politique. Ce sont les députés qui, en chambre des députés, vont discuter pour savoir si on accepte ou on rejette le divorce. Bien sûr, en tant que tel, dans un pays normalement qui tient la route correctement, des choses comme ça ne devraient même pas être discutées, puisque le divorce va contre la loi naturelle. Cependant, ce sont les députés qui vont déterminer si dans le pays, le divorce est accepté ou non. Prenez l'exemple de l'avortement, c'est la même chose. Il faut savoir si l'avortement est reconnu ou non reconnu dans le pays, bien qu'en tant que tel, ce ne devrait même pas être discuté en chambre des députés, puisque ça va contre la loi naturelle, ce sont cependant les députés qui vont discuter pour savoir si on accepte ou on rejette l'avortement. Et pour tout, c'est comme ça. Et donc, si on dit que l'Église et la politique doivent être séparées, on dit ainsi indirectement que l'Église n'a rien à voir, elle n'a rien à dire contre le divorce ou contre l'avortement. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre, parce qu'un des buts de la Révolution, c'est d'avoir séparé complètement le privé et le public pour l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est très triste en France de voir justement ce laïcisme français qui a abouti à la perte de tant de millions d'âmes. Parce que justement, dans ce domaine, l'Église a parfaitement quelque chose à dire et doit dire quelque chose. Alors qu'est-ce qui se passe en France? Les députés et les membres du gouvernement sont en train d'essayer de nous faire croire qu'on peut accepter le bon Dieu uniquement dans la sphère privée. Et que dans la sphère publique, le bon Dieu n'a plus rien à dire. C'est faux. L'Église a quelque chose à dire en matière politique parce que justement la politique va aider les gens à aller au ciel, au contraire, va les pousser à aller vers l'enfer. Et comme toutes ces choses sont absolument fondamentales. Notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement roi, c'est ce qu'on oublie beaucoup trop souvent. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi, d'abord parce qu'il est créateur, mais aussi roi parce qu'il est rédempteur. Il est roi parce qu'il est créateur, par droit de nature, le dit le pape Pie XI, et est roi comme rédempteur, par droit de conquête, parce qu'étant mort sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés, a rouvert plus exactement les portes du paradis qui était fermé depuis la prévarication d'Adam et Ève. Vous voyez, comme il faut avoir les idées parfaitement claires dans ce domaine. Si on n'a pas les idées parfaitement claires dans ce domaine, on tombe dans le laïcisme complet en prétendant que notre Seigneur Jésus-Christ n'a plus rien à voir avec la vie pratique publique des Français. Le bon Dieu a quelque chose à dire, l'Église catholique a quelque chose à dire dans ce domaine, plus que jamais. Ce qu'il faut absolument comprendre et expliquer à nos enfants qu'on n'est pas accepté les principes par lesquels on fait une séparation totale entre l'Église et l'État. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la plupart des gens aujourd'hui? Les gens vont nous dire, bon d'accord, l'Église peut avoir une influence, notre Seigneur Jésus-Christ doit être reconnu dans le tabernacle. Dans l'Église, on tolère dans la sacristie et éventuellement, d'un certain côté, sur le parvis de l'Église. Mais dès qu'on a quitté le parvis de l'Église et qu'on revient dans le monde dans lequel nous vivons, dans le monde extérieur, à ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ n'aurait plus rien à dire. Mais qui a créé le monde extérieur dans lequel nous vivons? Le monde extérieur dans lequel nous vivons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a créé. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a bien sûr quelque chose à dire dans le monde dans lequel nous vivons. Et si le monde moderne est devenu une espèce de jungle dans laquelle les requins se mangent entre eux, eh bien c'est précisément parce que notre Seigneur Jésus-Christ a été totalement rejeté de ce milieu, de cette société. Donc c'est tout simple, ou notre Seigneur Jésus-Christ est roi de la société, ou s'il n'est pas roi de la société, comme la nature a horreur du vide, c'est quelqu'un qui va prendre la place du bon Dieu. Et c'est quelqu'un qui va prendre la place du bon Dieu, c'est tout simplement le démon, parce que la nature a horreur du vide, encore une fois. Vous voyez, comme il dit, il est important, encore une fois, d'avoir les idées parfaitement claires dans ce domaine. Alors, je réponds tout de suite à une autre objection qu'on entend très souvent. Les gens nous disent, mais monsieur l'abbé, ce que vous dites n'est valable que pour les catholiques. Pour les non-catholiques, cela ne vaut pas, parce que dans la pratique, dans la société dans laquelle nous vivons, il y a des gens qui viennent de tous les azimuts, et donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas catholiques. Vous ne pouvez pas imposer l'existence de Dieu et une morale chrétienne, une morale catholique, à des gens qui ne sont pas catholiques. Et qu'est-ce qu'a répondu notre Seigneur à cette objection? Il a dit clairement, allez, baptisez, prêchez. Celui qui sera baptisé, qui aura la foi, qui croira qu'il sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne sera pas baptisé, qui ne croira pas, sera condamné. Voilà ce qu'il a dit. Il faudrait peut-être aussi rappeler une chose essentielle à bien des têtes vides qui oublient ces choses-là, c'est que le bon Dieu est créateur de tous les hommes. Le bon Dieu n'est pas simplement créateur des catholiques et des vacantistes de France. Le bon Dieu est créateur de tous les hommes. Il est créateur des musulmans, il est créateur des bouddhistes, il est créateur des païens, il est créateur des communistes, il est créateur de tous les hommes, même de ceux qui utilisent leur intelligence pour lutter contre l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ en eux. Donc tous les hommes ont été créés par Dieu, tous, pas l'exception. Donc tous les hommes ayant été créés par Dieu, il est normal que notre Seigneur Jésus-Christ ait le droit d'imposer une loi à ces hommes qu'il a créés, parce que c'est lui qui a créé l'intelligence de chacun de ces hommes. Quand vous achetez un équipement quelconque pour votre maison, en général, l'équipement arrive avec un mode d'emploi. Il faut utiliser ce mode d'emploi. On commence par lire le mode d'emploi avant de brancher la machine pour ne pas faire tout sauter. C'est pas faire des bêtises qui vont détruire la machine. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Puisque c'est le bon Dieu qui vous a créé, qui nous a créé, vous et moi, le bon Dieu a le droit de nous donner un mode d'emploi pour l'usage de notre âme. Nous n'avons pas le droit d'utiliser notre âme comme nous le voulons. Nous n'avons pas le droit d'utiliser notre intelligence comme nous voulons. Nous n'avons pas le droit d'utiliser notre volonté comme nous voulons. Nous n'avons pas le droit d'utiliser notre cœur comme nous le désirons. Le bon Dieu a donné une loi pour le cœur, le bon Dieu a donné une loi pour l'usage de l'intelligence, le bon Dieu a donné une loi pour l'usage de la volonté. Et tous ceux qui refusent d'utiliser leur liberté, leur libre arbitre, pour utiliser leur intelligence, leur volonté et leur cœur selon la volonté du bon Dieu, eh bien évidemment, provoquer un accident terrible. Cet accident terrible, c'est le refus d'aller vers le ciel. Voilà l'accident terrible. Et donc il faut rappeler, mes bien chers frères, que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas quelqu'un de facultatif. Il ne s'agit pas de choisir si nous voulons une civilisation catholique en France ou une civilisation païenne ou une civilisation protestante. Il s'agit de savoir si on veut une civilisation, oui ou non. Parce qu'en dehors de la civilisation catholique, il n'y a pas de civilisation. Ou notre Seigneur Jésus-Christ est roi du pays, ou le néant sera roi du pays. Et on le voit très bien aujourd'hui. Dès que notre Seigneur Jésus-Christ s'en va, dès qu'on met dehors la loi des commandements de Dieu, dès que cette loi du commandement de Dieu est poussée à l'extérieur de la sphère publique, immédiatement, c'est du n'importe quoi qu'on voit. Rappelez-vous ce que disait le Saint Curé d'Ars avec raison, il disait laisser une paroisse de 20 ou 30 ans sans prêtre et on adorera les bêtes. Et on voit exactement ce qui se passe aujourd'hui. On a enlevé le bon Dieu de la société, on enlève le bon Dieu de la société, et du coup, eh bien, c'est le démon qui prend la place. On a du n'importe quoi, surtout avec toutes ces lois ridicules, absolument contre nature, qui sont en train de détruire tous nos enfants les uns après les autres. Il faut donc réagir, mes chers frères. Certes, parfois, une autre objection qu'on entend très souvent, c'est la suivante, toute simple, mais monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a tout le monde contre nous. Comment voulez-vous rétablir une société catholique en France, puisque la France est aux mains de bandits qui ne cherchent qu'une seule chose, c'est à tout détruire? Mais la réponse, je pense, est la suivante. Il nous faut impérativement, au moins dans le domaine sur lequel nous avons juridiction, il importe au moins dans ce domaine-là, notre Seigneur Jésus-Christ soit reconnu comme roi, pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse avoir une influence effective, pratique dans ce domaine. Et le domaine dans lequel vous avez juridiction, mes bien chers frères, s'appelle la famille. Dans la famille, les parents ont juridiction. Le père est chef de famille, la maman est la reine de la famille, et les deux ensemble, le roi et la reine, doivent travailler pour aider leurs enfants à conserver la foi. Et le bon Dieu nous donnera des grâces, vous donnera des grâces pour y arriver, même si c'est de plus en plus difficile. Rappelez-vous que c'était le cardinal Pi qui, au XIXe siècle, avait fait cette prophétie, avait prophétisé de façon extraordinaire. Il avait vu manifestement, il avait compris que les progrès du laïcisme en France allaient provoquer une espèce d'apostasie totale en France. Il avait dit, l'Église catholique va être réduite à des états domestiques, c'est-à-dire à la dimension des familles. Quelques familles à droite et à gauche qui conservent la foi. Donc il ne faut pas se décourager, mes bien chers frères, mais au moins nous battre pour que dans nos familles, la foi soit conservée. Ils peuvent nous empêcher de dire le chapelet en public, mais ils ne pourront pas vous empêcher de dire le chapelet en famille. Ils peuvent massacrer les corps, ils ne peuvent pas massacrer les âmes, sauf si l'âme en question laisse le démon entrer en elle pour qu'il puisse y faire ce qu'il veut. Donc demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. Je vous conseille beaucoup de relire, puisque c'est la fête du Christ-Roi qui arrive le 30 octobre cette année, hein, dernier dimanche d'octobre. Je vous conseille beaucoup, mes chers frères, d'obtenir, on la trouve facilement sur Internet, vous pouvez très facilement, même à la maison, lire les textes de Quas Primas, la grande encyclique du pape Pie XI en 1925, par laquelle il institue la fête du Christ-Roi. C'est une encyclique relativement facile, une encyclique relativement courte, c'est très facile de la lire. Lisez-la, étudiez-la, étudiez quel est l'enseignement de l'Église catholique sur ce domaine. N'oubliez pas que une des choses qu'utilise le démon pour détruire les âmes, c'est l'ignorance. Les âmes n'ont plus le temps, ne prétendent ne plus avoir le temps de travailler. Si bon Dieu nous a donné une intelligence dans notre âme, ce n'est pas pour rien. Il nous a donné une intelligence pour que justement nous utilisions cette intelligence afin de remonter vers le bon Dieu, puisque l'objet de notre intelligence, c'est le vrai. Donc il n'y a rien de pire que de refuser d'utiliser notre intelligence. Et c'est ce que le monde moderne nous pousse à faire. Refus d'utiliser notre intelligence pour que les enfants et les adultes, les enfants qui deviendront adultes, se deviennent incapables, psychologiquement parlant, de rechercher le vrai. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on leur fait croire que le vrai n'existe pas. Or, le vrai existe indépendamment de notre volonté. Alors, mes chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous faire comprendre toutes ces choses, même si elles sont parfois peut-être un petit peu compliquées. Et demandons la grâce pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit véritablement roi de nos cœurs, roi de nos intelligences, roi de nos volontés. Qu'il nous indique où est le vrai, comment l'atteindre par l'intelligence et la volonté. Et qu'il nous aide à aimer les choses que nous devons aimer et à détester les choses que nous devons détester. N'oublions pas que, encore une fois, nous ne sommes pas libres dans ce domaine. Il nous faut absolument aimer le Seigneur. Celui qui aime le Seigneur, par obligation, est obligé d'haïr le mal. C'est à l'absence de haine contre le mal qu'on verra qu'un catholique est un faux catholique. Un vrai catholique, c'est quelqu'un qui adore notre Seigneur Jésus-Christ et qui déteste le démon. Donc quelqu'un qui se prétend aimer le démon, suivre le démon, ses pompes et ses œuvres, ne peut pas prétendre être catholique. Alors demandons à notre Seigneur de Marie de mettre en nos cœurs justement ce feu sacré de l'amour du bon Dieu, l'amour de son Église, l'amour de sa foi, l'amour de l'amour de ses commandements, afin que nous puissions un jour tous être réunis au ciel. En nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.